donc notre idée, c'est de travailler autour des analogies entre deux documents du papier, la BD et storyboard. Et il m'a semblé important que travailler avec moi et m'accompagner un vrai dessinateur, quelqu'un qui a réfléchi sur la bande dessinée. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu de nombreux rendez-vous pour préparer cette intervention. Structuré de la manière suivante. Donc, ici, les trois parties de notre intervention. Et justement, ça nous donne, on finira sur les choses un peu étranges qui naissent du papier, qui tendent vers le film, qui sont notamment les animatiques, puisque je vous en parlais tout à l'heure. On commence par une introduction autour de différentes ressemblances qui sont.
C'est vrai qu'on en a déjà parlé un petit peu ce matin, tu en avais parlé Bruno ce matin, entre les liens communs peut-être entre la bande dessinée et puis le storyboard. Donc, à la base, ça reste des dessins dans des cases, si on va parler d'une façon très basique à première vue. On utilise aussi des codes qui se ressemblent, qui sont assez proches, notamment au niveau des termes de cadrage, pour plan américain. Quand on discute avec le scénariste et avec l'auteur, avec le dessinateur, on emploie ces termes-là, avant d'entamer les premiers brouillons, les premières. Alors, je vous propose un petit jeu pour démarrer. J'ai pris deux cases. L'idée, ça va être de définir, en fait, choisir laquelle est une case de storyboard, laquelle est une case de bande dessinée. Première case. Alors, les mecs, ils vont certainement trouver à qui appartient quoi.
À qui appartient quoi, c'est une autre question.
Quelle case ? Est-ce que la case du haut, c'est la case de bande dessinée ou storyboard ?
Storyboard.
Storyboard. Bon. Puis on avait parlé tout à l'heure, c'est storyboard d'Amérique. Elle est un piège parce que dans le mouvement du visage, de la tête, ça, c'est un code, les petites ellipses avec les deux petites tresses, c'est aussi très proche de la bande dessinée. L'autre chose, c'est que les deux pattes, les deux styles graphiques sont quand même assez proches. Donc en haut, c'est du Luc Desportes, qui est aussi dessinateur de bande dessinée. C'est pas pour rien que ça se ressemble, parce qu'il y a pas mal de dessinateurs de bande dessinée qui travaillent sur des petites productions ou sur des grandes productions en termes de storyboard. En bas, c'est un album de Jacques Tardy, c'était Les Gardes Tranchées, qui a travaillé déjà il n'y a pas très longtemps avec Luc Besson sur Den Blanc Sec.
Je me suis demandé pendant longtemps si c'était pas lui qui avait storyboardé à Den Blanc Sec. Ils ont un style tellement similaire.
Je me suis posé la question et quand j'ai choisi ces deux images-là, je me suis dit, tiens, on va faire le même dessinateur.
Allez,
faire
Luc et Tardy.
Pas du tout, ce sont deux dessinateurs différents. Bon, ça c'est vraiment à première vue, parce qu'il y a quand même des petites différences qui sont essentiellement dues à leur finalité. On a aussi un petit peu parlé ce matin, on va détailler ça.
Ok, différence. Alors oui, rapidement, qu'on recoupe des choses que tu as dit, Diane, par rapport au storyboard en tant qu'outil. Donc c'est d'abord un outil de travail au service de la faisabilité du projet entre les producteurs et les. Aujourd'hui, au cinéma, depuis l'avènement du numérique, tout est envisageable, tout est possible, mais pas à n'importe quel coût. Donc ça va être intéressant d'avoir ce storyboard, en particulier pour évaluer le coût du film et sa faisabilité. Et donc c'est un outil par nature modifiable, perfectible, en fonction de nouvelles idées. Ce qui n'a pas été dit encore, et qui me semble important de souligner, c'est l'idée que cet outil s'adresse, je pense, à un public restreint, parce que sa compréhension n'est pas forcément évidente. Sa compréhension requiert une connaissance du langage cinématographique et une capacité à se projeter dans une autre forme, celle que l'on vise, à savoir le cinéma. Je pense qu'il y a une analogie en fait entre la construction de l'histoire par le spectateur à partir du récit et la construction de l'idée de la mise en scène à partir du storyboard. Cette construction de l'idée de la mise en scène implique comprendre puis s'approprier cette idée pour la questionner artistiquement ou économiquement. Artistiquement, par exemple, pour évaluer la qualité artistique, l'inspiration, les baisses de régime, la fluidité et les raccords, ou économiquement, comme on l'a vu, comment parvenir au résultat désiré avec un coût optimisé. Voilà pour ma partie. mais toi, de parler de bande dessinée.
Bah, la bande dessinée, on a très rapidement aussi abordé ce machin. C'est un produit qui est fini. À l'inverse du storyboard, il va être destiné à un public le plus large possible pour des raisons commerciales évidentes. Il y a environ 4 à 500 titres de bande dessinée qui sortent par semaine, par mois. Donc ça fait quand même un sacré panel de lectures possibles. Mais d'un autre côté, il va falloir donc que ce soit accessible dans la lecture à l'acheteur potentiel le plus large possible. Dans le même ordre, il ne peut pas être modifié. C'est-à-dire que quand on vend le produit est vendu, l'auteur, donc c'est le couple hein, entre le scénariste ou le scénariste parfois et le dessinateur et le coloriste, il n'y a pas de modification possible. L'auteur abandonne son travail, lequel est approprié par le lecteur. Chaque dessin est définitif, c'est un produit qui est consommé par le lecteur. Et quand je travaille, c'est vrai que je travaille aussi dans différentes structures pour enseigner la bande dessinée ou du moins faire des stages, tout public. Quand un élève me présente son brouillon de planche, s'il commence à expliquer, ça raconte l'histoire de non, en fait ça doit être accessible pour moi, je me mets à la place du lecteur tout de suite, soit je comprends, et c'est très bien, soit je comprends pas, et là il y a un problème dans la narration. Il faut se mettre à la place du lecteur quand on écrit de la bande dessinée. Donc c'est pas possible pour l'auteur d'intervenir, ah oui, mais en fait ce que je voulais dire c'était ça, non, c'est accessible tout de suite, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Alors voilà pour les différences, on va attaquer la partie fabriquée de l'espace en termes d'image, l'aspect graphique.
Voilà. On va commencer par parler du contenant, à savoir de la case. Cette partie qui s'appelle de la case. Et je vais parler de l'aider.
Très bien, mon choix.
Alors, on se propose donc ici d'étudier le contenant, à savoir la case. Regardons d'abord comment cette case fonctionne en BD. Alors, on a bien sûr tous en tête le dessin de case le plus basique qui soit, à savoir un simple rectangle. Mais en BD, la case et ses contours peuvent constituer un élément notable de création et de mise en scène. Ayant un fort impact émotionnel sur le lecteur, en BD, la case, elle est extensible et expressive. Voici quelques exemples qui sont issus, avant que je vous les montre, un super bouquin que tu m'as fait découvrir.
Oui, c'est un très grand auteur de bande dessinée qui a beaucoup théorisé sur le sujet.
Il y a relativement peu d'ouvrages qui traitent du code de la bande dessinée aussi.
Il y en a quelques-uns, mais tous ne sont pas intéressants ou parfois un peu trop complexes.
Ça, c'est vraiment passionnant. Donc, les clés de la bande dessinée, il y a un certain nombre de volumes. Et les exemples que je vais vous montrer sont issus du premier volume qui s'appelle L'art séquentiel. Et dedans, il y a de nombreux exemples de cases étranges où il y a eu un vrai travail de création. Je vous en ai extrait 4. Voilà. On regarde le premier exemple. Dans le premier exemple, vous voyez les contours acérés de la case et le dessinateur traduit comme un déchirement pour l'œil qui semble indiquer graphiquement douleur et tri. Dans l'exemple 2, le cadre nuageux participe de la narration et désigne cette séquence comme appartenant potentiellement au passé ou à l'imaginaire d'un personnage. Dans l'exemple 3, vous avez une mise en abîme, un monstre qui sort d'une case. Et donc, cet exemple met en scène le débordement de l'action hors du cadre de la case et accentue l'idée de dangerosité. Enfin, exemple extrême, il n'y a plus de case.
Une case ouverte.
C'est une case ouverte. Et je cite Will Eisner, il écrit: l'absence de bordure de case est destinée à donner le sentiment d'espace illimité. Elle confère une sensation de sérénité et soutient la narration en ajoutant à l'atmosphère. Voilà. BD, maintenant on va parler de storyboard. Dans un storyboard, la case n'est pas le lieu de l'invention. La case témoigne avant tout du rapport longueur sur largeur de l'image. Final. La case doit simplement rendre compte du champ que la caméra englobera. Mais pour signifier ce champ englobé, on peut parfois en chasser une case dans une autre. C'est le cas dans l'exemple que j'ai choisi, qui est extrait du storyboard 2. il y a le Claude Miller qui date de 1980, avec Lino Ventura qui est à droite, garde à vue. Storyboard réalisé par Lamley. C'est au passage un storyboard qu'on retrouve dans le très belle ouvrage, qui avait été fait à l'occasion justement d'une exposition autour du storyboard.
Donc, qui est dur à trouver.
Ouvrage de Bot. Pardon ?
Qui est dur à trouver.
Bon courage. Oui, oui, je l'ai trouvé. J'ai une dédicace, hein, je l'ai trouvé, mais il n'est pas là.
Lamley, il faut le signaler, a été le premier à travailler sur une adaptation cinématographique de Tintin. Qui avait poussé assez loin et qui s'est arrêté faute de producteur, mais c'est le premier à avoir eu des autorisations et à avoir travaillé loin sur Tintin.
En qualité de réalisateur ?
En qualité de réalisateur, oui.
D'accord. Donc, ici, dans l'exemple, le plan décrit un travelling avant, dont le cadre de départ et le cadre d'arrivée sont inclus dans le même dessin. En général, les storyboarders vont faire une flèche de là.
Éventuellement.
Oui. Éventuellement.
Pas forcément.
Mais... Là, il n'y a pas de flèche, mais il y a marqué le début, il y a marqué fin. Donc, on arrive à se repérer assez facilement. Donc là, on a parlé de la case. On va se poser une question. Ça m'intéressera d'avoir ton avis, puisque tu disais que Jean-Jacques Hanot te remettait dans ses notes l'objectif qui comptait utiliser. On va parler de la sensation de l'objectif. Est-ce qu'un dessin peut rendre compte de l'effet d'un objectif ? juste après cette partie-là. Le dessin semble adapté pour reproduire les informations importantes de type mouvement des personnages, décors, mais aussi l'incidence du plan, plongée, contre-plongée, voire les jeux de mise au point. Et d'une manière anecdotique, j'ai fait un scan d'un ouvrage qui est, il me semble, pas terrible. Il s'appelle L'art du storyboard, et donc il explique sous Photoshop comment faire un jeu de mise au point. Cependant, il paraît donc difficile, sans passer par le fait de mentionner à côté du dessin l'objectif utilisé, de faire sentir toutes les nuances apportées par le choix de tel ou tel objectif. Un grand cinéaste comme Raoul Ruiz ne cachait pas qu'il n'aimait pas le storyboard, notamment parce qu'à ses yeux, le dessinateur le construisait de manière exagérément graphique. Dans l'ouvrage que je vous ai montré, qui s'appelle le Storyboard de cinéma animé, les auteurs rapportent ces propos. Un dessinateur a presque toujours tendance à inclure dans le même cadrage différentes longueurs de focale, ce qui rend la reproduction des effets à peu près impossible au moment de la prise de vue. Il faudrait que l'objectif soit un 35 mm pour rendre tel effet précis et un 50 mm pour en rendre un autre. En guise de conclusion, et avant, tu m'en parles, si tu veux, je me suis permis de consulter sur ce point un spécialiste de l'image, la personne d'un chef opérateur qui s'appelle Christophe Orcan, qui est chef opérateur de Rien de Personnel, de Mathias Gocal. Et il m'a expliqué qu'un dessin pourra faire sentir tout au plus l'impression d'une courte, très courte, longue, voire très longue focale, mais à moins de construire géométriquement et très précisément ce dessin, on ne pourra pas aller beaucoup plus haut. Et Christophe Orcan m'a fait la même remarque sur le degré de flou qu'il est très difficile de quantifier d'après un dessin. Est-ce que si Jean-Louis nous permet ?
Oui. Je confirme la remarque du chef-op. Ouais. Tu peux à la rigueur indiquer que ça sera longue focale parce que tu tasses tout et le fond est flou. Ou tu peux indiquer assez facilement que c'est très grand angle parce que tu bascules les perspectives, les verticales et tout ça. Au-delà, ça, puis on s'en fout. La plupart du temps, il y a quelqu'un qui rétablit la vérité.
Je voulais montrer les limites.
Oui, c'est une vraie limite.
En bande dessinée, ça a un peu changé, notamment chez les comics américains. C'est que c'est vrai que, comme tu le disais, et puis comme tu le faisais remarquer aussi, on est limité par l'aspect graphique. C'est-à-dire qu'on va empâter un dessin proche, par exemple, un dessin très fin, quelque chose de loin. Mais dans les comics américains, ils ont introduit le flou dans l'animé. Soit pour une notion de mouvement, soit pour donner plus de profondeur encore. On peut même, après que la couleur soit posée, effacer l'ancrage. Ce qui renforce l'idée de profondeur de champ. Ça reste une bidouille. Hein. Mais ça commence à sortir. Alors,
ah oui, c'est une bidouille Photoshop.
C'est une bidouille Photoshop. Ouais, c'est on s'en méfie un peu parce que ça peut avoir tendance, on a un peu exagéré, comme quand Photoshop est apparu pour la couleur numérique, à mettre des dégradés, parce que c'était l'outil génial Photoshop. c'est clair qu'on avait des couleurs très molassonnes en fait. L'aspect flou, on a un peu abusé il y a 10-15 ans dans la bande dessinée, surtout américaine. On est un peu revenu de tout ça.
Et peut-être aussi une petite intervention, enfin pas en storyboard mais en concept design, donc en dessin conceptuel. Ils utilisent là pour le coup des simulations de focales sur des logiciels comme SketchUp qui permettent justement de créer cette illusion de focale bien précise. Donc on rentre la focale exacte au niveau du logiciel sur une scène qu'on a modélisée très basiquement. On met une caméra dans un univers virtuel très géométrique. On provoque la focale, donc on la simule, et là ça permet soit en imprimant ou en imprimant écran de redessiner par-dessus, de mettre tous les petits détails qui correspondent à une focale précise. Mais là c'est utile dans des dessins très, très détaillés et qui sont des dessins uniques de concept. Quand on va modéliser une navette spatiale par exemple qui est un espace clos, on veut savoir comment elle va apparaître à l'écran et qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer ou qu'est-ce qu'on va devoir détailler, et donc ils font ça pour savoir exactement quel est le tuyau sur la droite qui devrait être peint ou pas, quoi. Ça se fait pas dans le storyboard.
Alors, troisième partie, sur les mouvements d'appareil. On va regarder cet exemple-là. Parce qu'on sait que le storyboard, une de ses fonctions, c'est restituer les mouvements d'appareil, mais je vais vous donner un exemple où il me semble manquer quelques informations. Et où je vais aller dans le sens que je disais tout à l'heure, où il faut vraiment être initié au langage cinématographique pour pouvoir se projeter dedans et compléter avec son imaginaire les choses qui manquent. Donc pour rendre le plus compréhensible possible un mouvement d'appareil, le storyboarder l'amenait, on est toujours dans garde à vue, c'est poser la question du nombre de cases minimum nécessaires et de leur agencement pour décrire ce mouvement. Ici donc, il nous propose une longue case, et tu as employé un terme que j'ignorais, qui est vignette étendue.
Surtout que utiliser. Oui. Bon. J'ai pas de copyright.
Donc nous avons une vignette étendue, bornée sur le côté gauche, cadre de départ, et sur le côté droit, cadre final. Mais la longue case est ouverte en son centre. Ce défaut de frontière incite plus que jamais notre regard à épouser le mouvement de la caméra. En effet, notre œil, animé par le sens de lecture occidentale, glisse de gauche à droite sur la longue case, mais ce balayement aspire à devenir panoramique. Et ceci grâce au travail de notre cerveau qui imagine, complète et s'abandonne. Et je dis s'abandonne car il y a en effet la nécessité à un moment de lâcher prise pour que l'illusion opère. Nous venons de dire que le cerveau imaginé et complété, ceci est dû évidemment au fait qu'il manque de nombreuses images, ça va de soi, mais il peut aussi parfois manquer des indications plus fines de mise en scène et de cadre. Il manque quelque chose dans quelque chose qui n'est pas indiqué, qui est dans le mouvement d'appareil, et qui n'est pas indiqué. On va regarder ensemble. Prenons notre exemple. Dans le cas précis, si je me concentre sur le premier cadre, je mesure bien l'incidence en légère plongée de la caméra sur les pieds. Mais je ne comprends pas bien à quel moment la caméra se laisse dépasser et panote vers le haut pour me donner le cadre intermédiaire. Est-ce que vous sentez qu'il y a, en fait là, si vous regardez bien, il ne parle que d'un panoramique gauche-droite, mais il ne parle pas d'un panoramique ascendant. Hein? Et on peut pas. C'est bien un panoramique, puisque il n'y a pas une élévation de colonne, c'est forcément un panoramique, puisqu'on parle de la plongée pour arriver à une incidence.
De la limite. Il y a deux mouvements, il y a un trapé, puis un panoramique.
Oui, mais il indique un panoramique gauche-droite, mais il n'indique pas le panoramique du bas vers le haut.
Mais non, mais il y a un cut, et la caméra elle est montée.
Il n'y a pas de cut.
Non, il n'y a pas.
C'est un même plan.
Ah oui, d'accord.
C'est ça l'idée, c'est un continuum. temporel.
De la limite de l'écrit.
Il n'y a pas de notion de temps.
Ouais. Donc, comme ce panoramique ascendant n'est pas mentionné, nous ne pourrons pas savoir à quelle distance du personnage nous sommes lorsque le cadreur effectue ce panoramique. Et en conséquence, nous ne savons pas non plus à quelle vitesse ce panoramique ascendant sera réalisé. Donc, c'est notre imaginaire complet. Ça marche, mais
c'est un dialogue.
Tu l'aurais indiqué, toi?
Non. Non, je ne l'aurais pas indiqué parce qu'il suffit que les gens du film sachent plus on va partir de ça, que le personnage va faire à moitié voler, on va légèrement se monter en même temps qu'il passe devant nous, ah, et on laisse partir vers le fond pour le point final.
En fait, là, ce qui est important, peut-être, c'est de montrer le nœud derrière sa robe, ça, et donc il précise le dessin intermédiaire, parce que c'est important de voir le nœud en gros plan, peut-être.
Ça
c'est des ciseaux.
Puis il y a un moment où t'en sors plus du storyboard.
Ouais. Ça, c'est sûr. Mais donc, c'était pour parler de ce qu'on avait complété concrètement avec notre imaginaire.
Non, c'est toi. Oui, en mouvement d'appareil, en bande dessinée, c'est un peu plus compliqué puisque l'image elle est fixe. Donc dire que même s'il y a des termes de cadrage qui ressemblent, sur la notion de panoramique ou travelling que tu parlais, c'est un peu plus compliqué. Par contre, quand on parle d'un mouvement d'appareil, ça va vite rejoindre le seul appareil dont on dispose pour regarder la bande dessinée, c'est l'œil. Et là, on aborde encore une fois le sens de lecture. J'ai pris cet exemple-là, donc toujours de chez Vermi, pour montrer un peu comment ça marche. On est tenté d'y voir un mouvement là-dedans. Concrètement, comment ça se passe? La lecture va commencer à peu près par là. On va suivre la perspective des arbres, on va arriver sur le personnage qui a un canon en joue. On va se diriger vers le personnage qui visiblement vient de se prendre un impact, vient de se prendre une balle. Si on continue, hop, on est dirigé vers ce personnage-là, complètement à droite, qui nous redirige via sa position vers le personnage donc, qui s'est pris l'impact. Mais ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un travelling? Ou un panoramique virtuel, absolument virtuel.
C'est extrêmement compliqué.
Autant qu'il y a des cases là qui ressemblent plus ou moins à un écran de cinéma, mais on peut avoir des cases qui sont très longues en bande dessinée, ou alors à l'inverse, étroites mais très hautes. C'est uniquement le sens de lecture qui va fonctionner. Donc ça, c'est pour le monde d'appareil. Comment ça marche au niveau du mouvement des personnages de bande dessinée? En bande dessinée, en storyboard déjà, on a vu que on peut avoir un personnage qui a bougé avec une flèche qui va indiquer un mouvement, ou alors ce même mouvement, plus il va être compliqué, plus il va être segmenté, montré sous différentes positions. En bande dessinée, on pourrait superposer tous les mouvements dans une case. Là, c'est Gottlieb, donc ça c'est dans les inédits de la rubrique Abrac. On voit qu'il y a plusieurs mains qui montrent le pianiste qui joue avec un air désinvolte. Et ça a du sens derrière, parce que ça montre sa virtuosité, ça montre la vitesse de son jeu. C'est possible dans un cas très précis, le sens du dessin. Si on faisait ce type de travail, c'est-à-dire superposer tout le mouvement de toutes les cases, ça va être très dynamique, alors ça c'est vrai, mais alors ça va être franchement invisible. On va avoir un œil qui va fatiguer. En fait, ça marche surtout dans les BD humoristiques. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un choix de dessin définitif. Là, en l'occurrence, c'est toujours votre libre avec... la caricature de Uderzo qui viendrait rendre ses planches en retard. Donc Uderzo pas content, donne un uppercut à son aide à chef. Ça se passe jamais comme ça, on rien. Jamais comme ça. Là, le mouvement, comment est-ce qu'il vient? Le mouvement, il aurait pu aussi mettre le début et la fin du mouvement, voire plusieurs traits pour montrer différentes positions de son point. En fait, on a juste deux ellipses et un pack pour montrer la vitesse du mouvement. Mais est-ce que ça aurait été intéressant de superposer le mouvement là-dessus? Pas tellement, en fait. L'important, encore une fois, c'est d'aller direct à l'essentiel, que le message, l'action ou l'émotion soit rendu de la façon la plus sincère, la plus efficace possible. Alors c'est possible aussi de segmenter un peu à la façon d'un storyboard un mouvement sur plusieurs cases. Je vais détailler un peu le dessin après parce qu'il manquerait les planches précédentes et suivantes. Ça, c'est Black Sad, le tome 1, dessiné par Garnido et scénarisé par Diaz Canales. Garnido, c'est quelqu'un qui travaille aussi chez Disney avant de faire sa première BD. C'est un animateur de chez Disney. Ça se voit dans les traits des personnages et aussi dans son sens du mouvement. Donc, j'explique très rapidement. On a un personnage, là, c'est donc un lézard, il n'y a pas de nom. Black Sad, c'est le nom du personnage ici. La tête de chat. Sur la planche précédente, on voit qu'il y a un impact qui arrive et qui arrive dans le dos du lézard, commence à chuter. Sous la surprise de Black Sad, il commence aussi à lâcher son revolver, lequel était en visée de Black Sad, qui va tenter de être en pleine extension pour s'en saisir. Il y a un deuxième impact de balle qui est tiré. Il y a un deuxième coup de feu qui est tiré, qui va atterrir dans l'épaule du lézard, toujours en train de chuter. On aperçoit, on distingue Black Sad qui est là vraiment au maximum de son mouvement, et qui a réussi à saisir le revolver. La chute continue. La chute continue, il se prépare à viser, il atterrit, il vise, et il tire 3 à 3 balles. Donc on les impacte après dans le personnage qui en fait est en dehors de la création. Là on a segmenté le mouvement vraiment tel qu'on pourrait le concevoir dans un travail de storyboard. Alors c'est assez particulier parce que quand Garmido a travaillé sur cette planche, le mouvement est assez compliqué, il a voulu rendre l'aspect dynamique au niveau de cette scène. En fait, il s'est rendu compte après qu'en segmentant les images, on avait un effet de ralenti, en fait. Plus on met d'images, plus dans un même temps, plus ça fait un effet de ralenti. Ça, c'est très très rare en bande dessinée parce que c'est assez complexe à approcher. Et puis, on ne peut pas donner cette impression de ralenti comme l'effet de superposition dans le sens inverse. Quand on voit cette planche-là, en fait, ce qu'on se rend compte, on passe de l'espace à la fabrication du temps. Quand on travaille sur plusieurs cases, la vraie notion qui apparaît, c'est la notion du temps. C'est ce qu'on va aborder maintenant, c'est la quatrième dimension. Et là, je te laisse la parole sur le temps.
Alors, donc la question c'était, à la lecture du storyboard, quels sont les temps qu'on peut, les différents temps qu'on peut mesurer. Ce sont des temps qu'on peut déjà mesurer via la continuité dialoguée, mais qu'on peut mesurer encore plus finement avec le storyboard. À commencer par le temps utile. Alors, justement, ça, tu peux poser une question à notre storyboard. Par rapport à la durée diégétique, alors non, avec moi, c'est mon troisième partie de durée diégétique. Temps utile, quand il y a des temps indiqués à côté d'une vignette pour un plan, est-ce que c'est la script qui vous donne ce temps ou est-ce que c'est le réalisateur et vous-même
À vrai dire, je crois que je suis déjà parti quand ils font ça.
D'accord, ça vient après.
Ouais, ça fait partie de la vie du storyboard. Après, ça passe entre les mains de l'assistant et éventuellement ils peuvent faire un travail qu'ils n'ont pas besoin de faire devant moi. Donc moi, personne ne m'a jamais dit il faut que tu mettes là une seconde, deux, trois, et puis.
C'est annoté par quelqu'un d'autre si on
oui, après, éventuellement.
C'est la script en fait.
C'est généralement la script qui préminute le film, c'est la première mission qu'on lui donne à faire. Elle doit évaluer la durée finale du film. Et cet outil, c'est un outil de storyboard de haute précision justement pour approcher ce temps utile. Et le temps utile s'exprime en minutes et en secondes. Pour le temps de tournage, c'est le temps tel que va l'approcher le premier assistant à la réalisation. Qui va évaluer le temps nécessaire au tournage des plans compte tenu de ce paramètre absolument essentiel pour affecter un temps. Un plan, c'est le degré de difficulté du plan. Et il est très simple, via le storyboard, d'évaluer cette difficulté. Donc voilà, s'il y a une difficulté importante, on donnera plus de temps. Et si c'est par exemple un plan de difficulté moyenne, on pourra dire que 45 minutes, par exemple, pourront suffire pour tourner ce plan. Troisième temps, donc le temps diégétique.